ça va beaucoup plus loin. Ce qu'on fait, c'est un projet de société. C'est pas juste un projet de papier, puis j'ai chargé tant pour recruter. T'sais, on pense à tout l'aspect chasse de tête. J'ai signé un loyer, j'ai la chasse de tête au début, j'ai fait les papiers dans le milieu. Ça, c'est la mécanique.
Ouais.
Mais après, tout le reste, ça vient avec, c'est l'humain, puis les enjeux sont infinis. C'est vraiment un projet de société. Il ne faut pas le prendre à la légère. Puis on a un devoir. On va aller chercher ces gens-là en leur promettant une vie meilleure. On a un devoir de les intégrer adéquatement. C'est essentiel.
Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle. Je suis la fondatrice de La Talenterie, le cabinet conseil qui accompagne les employeurs de choix avec l'éventail de la proposition de valeur au talent. Et je suis aussi l'animatrice de ce podcast qui est fait par La Talenterie aussi, qui s'appelle La Talenterie. On aime bien simplifier les choses, où on explore un peu justement le monde du travail puis dans quel contexte est-ce que les entreprises ont à composer. Donc, on invite des gens avec des parcours et des perspectives variées. Un des sujets chauds qu'on a déjà abordé au podcast, mais pas exactement sous l'angle dans lequel on va le faire aujourd'hui, puis qui, de toute façon, je pense, va continuer d'être dans les sujets d'intérêt pour les années à venir, c'est le recrutement, mais à l'international, pour contrer en partie la pénurie de main-d'œuvre, on le sait, qu'on vit au Québec. Et j'ai invité Audrey-Anne Chouinard, que vous avez déjà entendu au podcast parce qu'elle est venue nous parler de son entreprise Galileo Partner. Je l'ai invitée à revenir au podcast pour nous parler, mais vraiment d'un point de vue recrutement international. Donc, pas eux comme employeurs, mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Donc, Audrey-Anne, tu es là. Allô?
Oui, allô. Bonjour.
Rebonjour. Merci encore une fois d'être déplacée.
Avec plaisir.
Parce qu'on enregistrera des moments très différents avec plusieurs mois d'intervalle. Je ris parce que souvent, c'est ça, on enregistrait la même journée, donc il y a peut-être un petit décalage dans les épisodes. C'est quelque chose d'assez fréquent. On fait du montage et on prévoit. Donc, on ne sait pas à quel moment cet épisode-là va sortir. Puis souvent, je ne le dis pas, mais dans un contexte de recrutement international, il y a quand même un contexte de marché, un contexte législatif. Ça, c'est déjà arrivé où on aborde ce genre d'enjeu-là puis que le contexte change. Donc, on enregistre en novembre, à la mi-novembre de 2023. Donc, tout ce qui sera dit aujourd'hui considère ce contexte-là.
Exact, exact.
Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu le premier épisode qu'on a fait avec Galileo, je te demanderais de nous expliquer un peu ce que vous faites dans la vie parce que vous faites du recrutement international, entre autres choses, mais d'une façon assez particulière puis qui est très liée avec votre expertise légale.
Oui, bien c'est ça. À la base, on était un bureau d'avocats. Donc, quand on a fondé Galileo, on était des experts en mobilité internationale, donc des avocats qui s'occupaient de la mobilité internationale, l'immigration des personnes qui sont au sein d'employeurs. Donc, on représente exclusivement des sociétés chez Galileo. Et avec le temps, et un petit peu avant la pandémie, on voyait un trend sur le marché de plus en plus populaire avec la pénurie de main-d'œuvre qui commençait à se faire sentir quand même. Là, ça fait plusieurs années que c'est un sujet très chaud en ce moment, mais ça fait plusieurs années qu'on entrevoyait que ça s'en venait puis que ça allait devenir quelque chose de très important d'aller recruter à l'étranger. On a travaillé tranquillement sur un projet d'annexer justement des services de recrutement international et aussi de relocalisation. Hein, ça fait partie du continuum du projet d'accueillir les gens ici aussi à nos services juridiques. Et je pense que c'est une des manières qu'on s'est distingué sur le marché dans le sens où il y avait beaucoup déjà de firmes qui faisaient du recrutement international pour lesquelles la partie immigration, la partie juridique, préparer la documentation, obtenir les permis, était peut-être faite un petit peu aléatoirement, disons, ou un peu comme un annexe à la partie recrutement, alors que ça devrait être au centre du projet parce qu'il y a des enjeux très importants pour les entreprises d'ici quand elles recrutent à l'étranger au niveau de la conformité, s'assurer que les employeurs font les choses de façon légale, que les permis de travail sont obtenus correctement, etc. Donc, on a pensé utiliser notre expertise juridique puis de la mettre au cœur justement de ce processus-là pour s'assurer non seulement qu'on puisse trouver des personnes à l'étranger pour venir combler des postes qu'on a besoin ici, mais être aussi s'assurer que ces gens-là ont les bons permis, qu'ils arrivent, que les entreprises sont conformes, qu'on leur remet les bons documents, que les salaires sont respectés, les conditions de travail, etc. Et aussi, bien, on les relocalise. Donc, l'idée de les amener ici, pas juste qu'ils débarquent de l'avion à Montréal ou ailleurs au Québec ou au Canada, sans avoir d'orientation, mais d'avoir la partie aussi intégration. Donc, on a allié tout ce processus-là, puis on travaille maintenant dans une équipe qui s'en sort grandie. Donc, on va aborder ça un petit peu plus amplement de toute façon.
Oui, absolument, parce que cette partie-là, cette notion-là d'intégration, elle est clé. Je pense qu'on commence à le voir de plus en plus. Là, tu l'as nommé, il y a de plus en plus d'engouement par rapport au recrutement, mais c'est une chose de recruter, puis après, il y a tout le « OK, mais une fois que la personne est ici, comment on l'encadre, puis qu'on s'assure que c'est un succès? » Fait que il y a des cas de figure, des choses qu'on entend des fois qu'on voit qu'il y a peut-être de l'éducation ou des outils à mettre en place. C'est pas quelque chose qui se fait nécessairement du jour au lendemain. Je pense qu'il faut apprendre à savoir qu'est-ce que j'ai à faire comme employeur, c'est quoi mes obligations, c'est quoi les ressources, tout ça. Fait qu'on pourra en parler. Mais le premier aspect que je voudrais qu'on aborde, c'est, tu l'as nommé, il y a des obligations légales aussi qui entourent le recrutement international. Puis les personnes qui s'en viennent travailler, tu sais, ici au Canada, souvent, il y a quand même un attrait de venir vivre, tu sais, au Canada. Je pense qu'il y a beaucoup d'engouement. Moi, je fais même pas de recrutement, puis j'ai souvent des gens qui voient que je suis en ressources humaines, qui m'écrivent, qui m'envoient leur CV en espérant, tu sais, que je peux
leur trouver un travail.
Ouais, c'est ça. Puis on entend aussi plein d'histoires d'horreur, tu sais, de cas de recrutement.
Faut pas tu lises les journaux, c'est juste ça. Si tu lis pas les journaux, t'en entendras pas parler.
Exact. Puis les gens ont peut-être des fois l'impression que, ah, ben, si j'arrive au Canada, c'est bon, tu sais, je peux rester, vivre ma vie, puis si j'ai un employeur qui est là, alors que c'est pas nécessairement si clair. Est-ce que tu veux un peu nous expliquer, premièrement, par où on part? Mm-hmm. Mettons qu'on dit, OK, on aimerait ça recruter à l'international parce qu'on n'est pas capable de combler nos postes ou toute autre raison.
Mon associé Francis, là, je vais le plugger, il demande dans les premières consultations, peut-être je peux expliquer c'est qui, là, mon associé Francis s'occupe de notre département de recrutement international, donc il est beaucoup là dans toutes ces discussions-là. Puis il dit souvent aux employeurs, avez-vous déjà fait du recrutement international? Puis le client, des fois, il dit non. Puis il dit, faites-le pas. Parce que, puis ça part la discussion un petit peu, puis on le dit ça à la blague, parce qu'effectivement, ça vient avec énormément, un cadre légal qui est complexe, puis énormément d'enjeux. Mais si on parle juste de la partie plus légalo-légale, puis où est-ce qu'un employeur doit commencer, bien justement, un projet de recrutement international, ça se planifie. Là, je veux juste peut-être clarifier mes propos parce que, quand je parle d'un projet de recrutement international, c'est vraiment d'aller chercher des gens à l'étranger, de les amener ici, doter certains postes, de les relocaliser au Canada. Mais après, je ne parle pas nécessairement d'une compagnie qui a vu, par exemple, un ingénieur en France puis qui s'est dit « j'aimerais l'embaucher lui », puis là, on fait les papiers d'immigration. Mais je parle plus d'un projet long terme, de dire « on a 10, 15, 20 postes à combler, puis là, on veut amener des cohortes hein, ». Parce qu'une personne à intégrer, ce n'est pas nécessairement les mêmes enjeux. Mais si on fait la généralité sur des cohortes de personnes, disons, 15 journaliers de production qui arrivent dans mon usine, dans une ville plus éloignée ou une banlieue de banlieue des grandes villes au Québec, par exemple, bien, il y a toutes sortes d'enjeux qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais si on parle d'abord un peu du cadre légal, parce que je pense que c'est de là que tout part, l'employeur doit comprendre que les personnes qui arrivent dans ces programmes d'immigration-là, encore une fois, il y a plein de programmes d'immigration, j'essaie de faire des généralités pour que ça soit plus facile à écouter, puis que ça ne rentre pas dans le cadre légalo-légal. Moi, j'haïs les avocats qui nomment les articles de loi, mais je suis capable de les nommer si jamais tu t'en sens le besoin.
Votre challenge,
exactement. mais donc, tu sais, si on fait ça de façon générale, mais c'est les demandes d'immigration pour arriver ici dans des postes, par exemple, manufacturiers, dans des postes d'électromécaniciens, ce genre de choses, bien, ça vient généralement avec un permis de travail qui est obtenu via une procédure qui s'appelle l'évaluation d'impact sur le marché du travail. Et cette procédure-là, elle nécessite que l'employeur vienne dire dans quel poste il a besoin, quelles sont les tâches exactes que la personne va faire, combien d'heures par semaine, ça va être quoi ses bénéfices, quelles vont être ses heures, est-ce qu'il y a des horaires atypiques, est-ce qu'il faut qu'elle travaille le soir, etc. Donc, quand on déclare ça, bien, on ne remplit pas juste un formulaire, on est en train de déclarer les conditions d'emploi d'une personne, puis quand cette personne-là arrive ici, faut que les conditions soient respectées. Fait qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire « mais moi, je l'ai embauché à 40 heures, mais finalement, quand il est arrivé, on était rendu qu'on faisait du 30 heures semaine chez nous parce que là, il y a des changements. » Puis par ailleurs aussi, il est bien bon, mais je pensais qu'il était meilleur dans cette job-là, mais finalement, il serait meilleur dans une autre job chez nous. Fait qu'on l'a déplacé, dans le fond, dans un autre poste. Tu ne peux pas faire ça parce que la personne, elle arrive vraiment dans un cadre spécifique, puis les conditions de travail qui ont été déclarées doivent être respectées, tant pour l'employeur qui s'expose à des pénalités par la loi que pour l'employé qui, lui, s'expose à avoir travaillé sans autorisation au Canada et justement avoir des conséquences légales super importantes pour sa vie. Un autre enjeu, c'est que ces personnes-là, dans plusieurs cas, les programmes d'immigration ne sont pas faits en fonction que ces gens-là puissent amener nécessairement la famille. Là, je fais des généralités, ce n'est pas toujours vrai, mais dans certains types de postes, la famille ne peut pas nécessairement automatiquement suivre et avoir des statuts d'immigration ici, ou elle peut suivre dans certains cas, mais faire vivre une famille de 5 au Québec avec un salaire de 25-26 $ de l'heure, c'est pas la même chose que peut-être dans le pays d'origine de cette personne-là. Fait qu'il y a tous ces enjeux-là aussi. Puis il y a des enjeux d'intégration culturelle. Fait qu'il y a le cadre légal, il y a le cadre familial, puis il y a les enjeux d'intégration culturelle de ces gens-là qui arrivent ici, puis ce qu'on a à offrir ici, même si on est très multiculturel au Québec, premièrement, on ne l'est pas partout autant, disons, que dans les grands centres urbains, mais en plus, ben, on a des enjeux que les gens n'ont peut-être pas vus dans certaines industries, par exemple, les personnes qui peuvent arriver d'un pays de confession musulmane, puis arriver ici, puis vouloir prier à l'heure où, ici, on doit changer les machines, par exemple. Mm-hmm. Puis là, ça peut confronter certaines personnes. Mais pourquoi lui, il peut prier à cette heure-là, puis moi, je vais prendre ma pause, puis tout ça fait que ça l'amène plein d'enjeux. Il faut que les entreprises soient prêtes. C'est du développement organisationnel, tout ça. C'est ça, c'est au-delà d'identifier un candidat compétent puis de l'amener ici. C'est comment on va faire pour l'accompagner. Écoute, on peut en parler longtemps, là, je vais te laisser me poser des questions, là, mais dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et pour revenir à ta question de base, comment un employeur doit se préparer? Bien, c'est justement, il faut se préparer. La première affaire à faire, nous autres, ce qu'on fait chez Galileo, c'est une prise de besoin. Puis des fois, l'appel peut durer 2 heures, puis il y en a une deuxième séance de travail, puis une autre séance de travail, parce qu'il y a plein d'enjeux auxquels il faut penser. Puis ces gens-là, bien, on veut que ça fonctionne. Quand on investit pour aller chercher quelqu'un à l'étranger, qu'on le déplace, bien, on ne veut pas qu'il parte après son premier 3 mois. Fait qu'il faut préparer cette personne-là à tout ce qui s'en vient dans sa vie aussi. Fait que ça se planifie tant sur le plan de nous comme intervenants dans le processus, d'aller les chercher à l'étranger, puis de bien les préparer à la réalité à laquelle ils vont faire face ici, mais de préparer les employeurs aussi à les accueillir, puis de préparer les travailleurs canadiens et québécois qui sont ici avec eux, qui vont les accueillir aussi à côté d'eux comme collègues, à ce qui s'en vient, au fait qu'on n'a pas tous les mêmes références culturelles, on n'a pas toutes les mêmes références scolaires, économiques, familiales, etc. Donc, il faut préparer tout ce beau monde-là à l'arrivée de ces gens-là. Puis je pense que malheureusement, c'est trop souvent oublié dans des projets où est-ce qu'on est en mode un peu usine à saucisses. Puis go, 30 travailleurs, oui. C'est pas difficile de trouver 30 personnes dans d'autres pays du monde. C'est grand le monde. Oui. Trouver 30 personnes dans d'autres pays du monde.
C'est un pays qui est quand même attractif là, pour le
exactement,
niveau de vie. Là,
exactement. Puis faites attention à ce que je dis. Je veux pas insulter mes collègues recruteurs. Je dis pas que c'est facile de recruter. Je dis que c'est facile d'identifier 30 humains qui ont envie de vivre au Canada.
Oui.
OK? Il y en a plein de monde qui ont le rêve de venir ici pour apporter une vie qui ressemble aux valeurs qu'on défend ici au Canada. Et donc, ça, c'est pas la partie difficile. La partie difficile, c'est de le faire correctement, de le faire en leur expliquant ce qui s'en vient pour eux, de le faire en préparant leurs collègues de travail qui vont les accueillir ici, de le faire en préparant l'entreprise à toutes ses obligations, puis de le faire dans le continuum aussi, une fois qu'ils sont ici. Ils n'ont pas de réseau nécessairement de support, ils n'ont plus leur famille, etc. Fait que c'est de le faire aussi dans le temps pour qu'ils aient des repères ici, une fois qu'ils sont ici, des réseaux de contact, etc. Fait que c'est des grands enjeux.
L'engagement, c'est pas OK, on est prêt à se lancer dans le processus de recrutement, puis à remplir des papiers, puis à payer les frais qui viennent avec. C'est un engagement de vraiment, on est-tu prêt à s'investir réellement puis à s'assurer que la culture organisationnelle
est prête.
Suive. Puis c'est quoi l'engagement qu'on doit prendre dans le sens que si ça ne fonctionne pas, puis j'imagine que ça doit varier selon les programmes puis tout ça. Là.
Oui, c'est ça, ça varie selon les programmes. Mais effectivement, de manière générale, là, si on peut, j'essaie encore une fois de faire des généralités, les travailleurs canadiens, les travailleurs étrangers ont droit aux mêmes choses, c'est-à-dire que, à part le fait qu'ils ont évidemment un permis de travail qui est contraignant au niveau de ce qu'ils peuvent faire, mais si la personne, elle n'a pas la compétence qu'on pensait, si la personne, elle a de l'absentéisme, etc., bon, on peut congédier une personne ou faire une fin d'emploi, on peut faire des mises à pied aussi, des fois, malheureusement, la situation économique fait qu'on doit faire des mises à pied, etc., donc, tout ça, c'est possible aussi avec des travailleurs étrangers, c'est juste que la conséquence pour une personne, peut pas nécessairement se retourner facilement quand il perd son emploi parce qu'il y a un permis qui est seulement lié à un seul employeur, alors que notre travailleur québécois, lui, il se revire de bord, bien, il y a peut-être 5 autres entreprises qui sont prêtes à embaucher dans ce type de poste-là. Mm-hmm. Donc, il peut se revirer de bord beaucoup plus facilement. Fait que les conséquences peuvent être énormes pour le travailleur étranger temporaire de ne pas passer sa probation ou de pas avoir nécessairement les compétences. Puis des fois, ça fait des situations un petit peu tristes parce que, mettons, la personne, elle n'a pas les compétences, mais elle a les compétences pour un poste qui est moins demandant ou demandant sur des compétences complémentaires, alternatives. On ne peut pas la déplacer parce que son permis est fermé. Fait qu'il faut se lancer dans un processus pour réobtenir des permis. Ça peut être très, très long. Pendant ce temps-là, la personne, bien, si elle ne rencontre pas les exigences du poste, il va falloir faire une fin d'emploi. Donc, des fois, ça fait des situations un petit peu triste.
Je parlais par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'il faut vraiment bien détailler les conditions de travail, puis ça va être quoi aussi le rôle de cette personne-là. On le comprend là, pour éviter les abus, puis protéger, comme tu le dis, à la fois l'organisation puis le travailleur. Mais j'ai un de mes clients qui me disait, puis nous, moi, je ne fais pas de recrutement dans la vie, ni de recrutement international, encore moins, mais souvent, on essaie de comprendre le contexte de l'organisation, bref. Puis j'aimerais avoir ton opinion, parce que lui disait, ben moi, pour éviter ça, on fait un peu un fourre-tout de tout ce qu'on fait dans l'entreprise, dans la description de tâches, là. Puis après ça, ben comme ça, on peut focusser sur une affaire ou une autre, puis avoir une certaine marge de manœuvre, parce que sinon, il se retrouvait avec le problème qu'il ne pouvait pas non plus faire évoluer la personne ou lui donner des promotions ou, tu sais, fait que... Il comme jouait un peu avec les paramètres. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ah ben là, tu ne demandes pas la bonne personne. Ça me dresse les cheveux sur le... Ça me fait friser les cheveux qui sont déjà très frisés par ailleurs. mais en fait, peut-être que c'est possible faire une approche pour tout un peu dans un poste spécifique où est-ce que tu mets des tâches un petit peu plus larges pour ratisser, mettons... je donne un exemple un peu niaiseux, mais pousser le bouton rouge. Puis c'est ça, c'est son poste. Puis là, on mettrait, mettons, pousser les boutons rouge, bleu ou orange, fait que dépendamment, tu sais, ça me dérange moins à l'intérieur d'une catégorie d'emploi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les catégories d'emploi au Canada sont gérées par ce qu'on appelle la classification nationale des professions. C'est des postes, vraiment. Peut-être que vous, en RH, dans d'autres raisons, vous utilisez cette affaire-là, mais nous, en immigration, c'est très utilisé pour classifier les emplois. Puis en fonction des niveaux de postes, il va avoir des exigences particulières de compétences au niveau de par exemple, de la diplomation requise, du nombre d'années d'expérience. Parfois, mettons, les électriciens vont devoir être membres d'un autre professionnel, par exemple. Il y a toutes sortes de contraintes. Et c'est très difficile de juste dire un tout sans faire des déclarations qui sont fausses ou erronées ou disons, fait que je veux faire attention à ce que je dis pour ne pas insulter personne. Mais tu sais, nous, c'est sûr que c'est pas l'approche qu'on prend. On essaie d'être le plus clair possible. Ceci dit, on a toujours le souci quand on fait les demandes chez Galileo justement de ratisser large dans le sens, parce que tu en parles un peu, ratisser large dans le sens d'anticiper ce qui pourrait arriver. Souvent, on va dire au client, par exemple, est-ce qu'il est éligible à des augmentations de salaire? Tu sais? Ils vont nous répondre non d'emblée. OK, fait que l'année prochaine, ah oui, mais l'année prochaine, il va monter de salaire. OK, donc tu sais, des fois, il faut poser des questions un petit peu plus loin. Fait qu'on essaie de faire ça large pour dire, tu sais, sera éligible à tous les changements selon les politiques de l'employeur, incluant, sans s'y limiter, la révision annuelle. Tu sais, on essaie de ratisser le plus large possible pour pas qu'une chose qui peut se passer dans l'entreprise puisse avoir un impact sur le fait que cette personne-là puisse pas être éligible, par exemple, à une augmentation de salaire. Mais si on regarde la loi de façon vraiment stricte, le poste doit être défini, puis c'est pas possible de déplacer les personnes, puis normalement, il faut que ça soit dans un code d'emploi particulier. Maintenant, peut-être, je connais pas le contexte dont tu parles, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que les postes sont très larges, puis c'est à l'intérieur d'une même catégorie d'emploi,
oui,
il y a peut-être un petit peu,
ouais,
c'est ça, il y a peut-être un petit peu plus de jeu.
C'est
là.
Pas genre
c'est
comptable ou
RH. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, on essaye toujours de le mettre un petit peu plus large quand ça demeure des tâches qui sont dans le même, comme l'exemple que je donnais tantôt qui est très classique, le rouge, jaune, bleu, mais c'est pas vrai, là, c'est juste pour te donner une idée. Si on dit juste rouge, mais finalement, il peut faire les deux, mais ça demeure que c'est un électromécanicien dans les deux cas, bien ça
oui, puis je pense que tu as une notion aussi de prendre du galon, puis de monter en imputabilité, là, de laisser place aussi à la progression rôle.
Ça, normalement, il faut s'assurer que ça demeure en fonction des règles là, applicables, il faut s'assurer que ça demeure dans la même catégorie d'emploi, parce que là, si la personne devient un petit peu plus senior, mais là, si elle commence à avoir des tâches de gestion, etc., ça se peut qu'elle monte, puis même la montée du salaire en passant, qu'elle monte dans la catégorie de profession. Et ça, quand ça monte dans la catégorie de profession, le code change, ça requiert un nouveau permis de travail selon la loi. Donc, devenir chef d'équipe, devenir team leader, comme on l'appelle souvent dans certaines entreprises, qui vient avec des tâches un petit peu alternatives, parfois, ça fait changer le code de profession, puis c'est pas permis. Fait que ça peut être dangereux, puis on s'en rend pas toujours compte. Pourquoi? parce que la vie va, puis hey, c'est comme lui, c'est lui team lead, c'est le meilleur dans l'équipe. OK, parfait, mais là, nous, on n'a pas entendu parler le bureau d'avocat en arrière. Puis l'année prochaine, quand on renouvelle le permis de travail, oh oui, bien là, il y a eu une promotion depuis l'année passée. C'est comme, oh, OK. Fait que ça, c'est, on essaie de sensibiliser nos clients le plus possible à nous appeler quand ils veulent changer le poste pour qu'on s'assure que c'est encore conforme, que même l'augmentation salariale peut faire basculer un poste dans une catégorie supérieure, parce que à un moment donné, l'agent d'immigration va dire « OK, t'es rendu payé 100 000 pour faire une job de commis, c'est peut-être pas normal. Oui. » Alors, tu sais, là, je donne un exemple flagrant, oui. Mais tu sais, c'est juste le salaire en soi peut avoir un impact, que l'agent va faire une détermination que la catégorie d'emploi avait changé. Donc, il faut faire très, 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 très attention, même si on a dit éligible à des augmentations de salaire, là, quand c'est rendu 20 25 % d'augmentation de salaire, ça commence à être
plus dur à défendre.
Plus dur à défendre.
Puis là, on parle dans le cadre d'un permis de travail fermé. Donc, mm-hmm. tu as le droit juste de travailler sur ce poste-là pour cet employeur-là.
Exact, exact.
Ça dure combien de temps, généralement, ça, un permis fermé?
Ça dure le temps qu'on a demandé à la base, quand c'est des temps plus courts. T'sais, si jamais, par exemple, s'il y a un poste de 6 mois, ben on aura 6 mois. Mais de façon générale, disons que c'est un poste permanent dans l'entreprise. Mm-hmm. En dépendamment des programmes, on peut obtenir des permis entre 1 an et 3 ans. Avec le processus d'évaluation d'impact sur le marché du travail que je parlais tantôt, c'est ce qu'on voit le plus souvent en recrutement international. Hein, parce que, mettons, moi, je représente par exemple des multinationales. Eux autres, ils font des transferts intra-compagnie. Ils envoient des gens de leur bureau à l'étranger vers le Canada. Ça, c'est à l'extérieur de ça. Mais quand on va... Donc, on va chercher des cohortes de gens là, qui ne sont pas affiliés à l'entreprise, qui arrivent au Canada. Généralement, on passe par ce processus d'évaluation d'impact.
Tu disais qu'on parlait de la durée. D'un an,
oui, c'est
ans.
Ça. Fait que ça peut être les permis vont être de 2 ans ou de 3 ans dans ces cas-là, dépendamment du programme d'immigration. Fait que ça va vite. Hein, après ça, il faut renouveler tout ça. Fait que c'est assez court dans une vie, 2-3 ans.
Puis pour le travailleur, qu'est-ce qui arrive au bout? Parce que tu sais, il y a aussi, j'imagine qu'il y a possibilité pour lui de demander certains statuts, tu sais, indépendamment de l'employeur. Là. Mm-hmm. On n'est pas obligé toute notre vie non plus de travailler pour la même entreprise quand on vient travailler au Canada, mais c'est quoi ça. Nuance ou la norme?
Bien, au bout de 2-3 ans, mais généralement, ils vont regarder aussi, en fait, dès qu'ils arrivent, ils vont regarder pour les options de résidence permanente. Parce que, puis là, je donne toujours l'image aux gens. C'est comme 2 autoroutes parallèles, la résidence puis la résidence temporaire et la résidence permanente. Dans le sens que même si tu fais des démarches pour t'établir ici au Canada pour une longue durée, il faut quand même que tu maintiennes un permis de travail valide au niveau temporaire le temps que tu deviennes résident, parce que la résidence, ça peut prendre un certain nombre de mois, même d'années, pour l'obtenir. Donc, il faut toujours maintenir des statuts valides. Donc, c'est certain que quand ils arrivent ici, ben ils vont toujours regarder quelles sont leurs options de manière permanente. Mais des fois, dans certains types de postes, les options peuvent être plus restreintes au niveau de la résidence permanente. Donc, ça va forcer les travailleurs à devoir renouveler un permis temporaire. Puis là, bon, ça rentre dans toutes sortes d'enjeux de politique gouvernementale. Qu'est-ce que le gouvernement met en place? On est un petit peu contraint par les politiques gouvernementales mm-hmm. sur ce plan-là. Puis des fois, il y a des choses qui ne font pas toujours de sens entre elles. Fait que ce que ça fait, c'est que ça met des challenges. Ça met un poids sur ces gens-là, effectivement, de devoir renouveler leur permis de travail. Ils peuvent changer d'entreprise des fois parce qu'ils se retrouvent dans une situation où leur expertise est recherchée, puis ils vont trouver un autre employeur qui est prêt à faire le processus de permis de travail fermé aussi avec eux. Quand ils lancent certains processus de résidence permanente, ils peuvent des fois obtenir des permis ouverts, ce qui leur enlève un poids, disons. Mais ça demeure une clientèle, même s'ils font des très bons salaires puis qu'ils ont des bonnes conditions de travail, ça demeure des gens qui sont vulnérables, parce que la vulnérabilité ne vient pas nécessairement, on pense toujours à la vulnérabilité économique, mais mm-hmm. c'est pas nécessairement ça. La vulnérabilité, c'est d'être dans un pays étranger avec des conditions imposées puis de se faire, en quelque sorte, forcer. Tu peux être, mettons, malheureux au travail, mais tu restes là, tu n'as pas le choix parce que tu te dis « je vais être éligible à demander ma résidence dans X nombre de temps, je ne trouve pas d'autre employeur qui est prêt à me faire une offre. » Fait que ces contraintes-là de durée et de permis amènent des enjeux pour ces personnes-là sur le plan personnel, parce qu'ils rêvent de rester ici, donc sont prêts des fois à tolérer des situations.
Et on en voit. Puis, tu sais, oui. Même dans mes clients, ça m'est déjà arrivé, tu sais, mais c'est pas toujours des organisations, comment je peux dire ça, qui ont pas des bonnes conditions de travail ou qui traitent pas bien. T'sais, des fois, c'est juste la personne est très malheureuse. Des fois, il y a des climats toxiques, là, ça existe, là, tu sais, mm-hmm. ça, tu peux pas savoir avant de venir ici.
Ouais.
Puis, ben les gens, c'est comme, ben tu sais, il faut que je fasse mon temps. Fait
c'est
que,
ça, c'est
ouais.
ça. C'est ça, puis j'avais la discussion cette semaine, justement, avec des clients on trouve que, en ce moment, pour le nombre de personnes plus vulnérables qui viennent ici ou du moins qui arrivent dans des cas avec des permis fermés comme ça, il y a peu d'options pour ces gens-là de se revirer de bord dans des situations qui sont pas, tu sais, là, je parle pas de violence. Là, si la personne elle vit du harcèlement psychologique, il y a des permis de travail pour les travailleurs vulnérables. Ils peuvent faire une plainte puis lancer un processus pour aller chercher un permis ouvert qui va leur permettre de travailler, de changer de milieu de travail. Mais tu sais, pour les situations qui sont on the edge, je me sens pas valorisée par mon... On a tous le droit d'être dans un milieu de travail qui nous épanouit puis qui fait qu'on est bien. Puis, tu sais, je me sens pas valorisée dans mon travail ou l'entreprise, elle défend pas des valeurs qui me ressemblent. C'est pas nécessairement des cas de violence au sens d'harcèlement ou de maltraitance, mais c'est des cas où est-ce que la personne est comme coincée dans cette situation-là à cause de son rêve de vivre au Canada, puis il y a peu de programmes qui leur permettent de se revirer de bord, si on veut. Puis des fois, c'est pas juste qu'ils sont malheureux, là. Ça peut être, par exemple, l'entreprise a fait des mises à pied. Bien, mettons, là, ils ont fait une mise à pied, c'est pas de leur faute, ils faisaient bien leur travail. Là, ils se retrouvent avec un permis fermé pour cette entreprise-là qui a fait une mise à pied. Et là, ils vont cogner à des portes, là. Il n'y en a pas de... Les gens mis à pied, là, il n'y en a pas de permis de travail pour les gens mis à pied en ce moment. Ça a l'air niaiseux, il n'y en a pas. Alors là, eux, ce qu'ils font, ils ont un permis de travail, valide encore pour 2 ans. Ils ont une famille à nourrir peut-être à l'étranger ou qui est ici avec eux, peu importe la circonstance. Puis là, ils se retrouvent avec pas d'option. Fait que là, ils vont cogner à des portes, puis là, les employeurs...
Ils espèrent que les employeurs
fassent des démarches. Oui, puis là, les employeurs disent « Ah, mais nous, on fait pas ça, on embauche pas des personnes qui ont pas de permis, ou on reçoit soit des appels des fois. Oh, c'est compliqué parce que c'est quand même des démarches qui sont prenantes pour l'employeur. C'est un cadre légal complexe, etc. Fait que pour certaines entreprises, il y en a qui sont très, très éduquées sur l'immigration puis qui en font beaucoup puis qui n'ont pas peur de ça. Il y en a d'autres que c'est pas le cas. Donc, les gens se heurtent à des portes fermées puis n'ont pas vraiment d'options. Fait que malheureusement, le cadre en ce moment, il n'est pas parfait pour ces gens-là. Puis pourtant, on devrait s'adapter parce qu'on sait qu'il va y avoir toutes les arrivées à la retraite prochainement. On parlait là, au sommet de l'immigration récemment de 1,6 million d'emplois qui vont être à combler dans les 10 prochaines années. Puis ça, c'est des départs à la retraite. C'est majoritairement... des remplacements, c'est pas nécessairement des nouveaux postes, c'est juste le minimum qui va être requis pour remplacer les chaises, mettre des gens dans des chaises qui vont être laissées vides par des entrées à la retraite. Donc, un des grands piliers de solution pour le Canada, ça va être d'aller chercher des gens à l'international pour combler ces postes-là. Alors, il faut qu'on se dote de processus qui sont meilleurs pour ces gens-là, que quand il leur arrive des bad luck ou qu'il leur arrive des choses, ils ont quand même tout abandonné dans leur pays pour venir ici. Puis je trouve qu'on leur donne pas tous les outils dans leur coffre à outils une fois qu'ils sont arrivés.
Oui, puis tu sais, je sais pas si tu as vu sur LinkedIn, mais j'ai partagé récemment, il y a quelques semaines quand même, l'histoire. C'est quelqu'un qui m'a écrit en panique, justement, un travailleur qui avait eu des échanges avec un employeur d'ici. Mais les démarches légales, tu l'as-tu vu? Ouais, tu fais un sourire, ouais, c'est ça. Les démarches légales n'avaient pas été faites là, avant son arrivée. Puis là, l'employeur a dit « Ben non, mais gars, viens-t'en ici, puis on va faire les papiers après. » Puis tu sais, les gens, la personne a eu confiance, puis il fait venir toute sa famille. Puis là, presque à la veille du départ, l'employeur, en fait, pas à la veille, là, ça a commencé avant, mais l'employeur a arrêté de répondre au téléphone. Parce que sûrement qu'il avait changé d'idée, tu sais, puis il était pas game d'assumer un peu. Puis à un moment donné, il a fini par répondre très proche du départ, puis dire, ben, OK, tu sais, finalement, j'ai changé d'idée, on n'aura pas de besoin. Puis là, cette personne-là se retrouve avec sa famille, tout est vendu. Eux autres étaient en France dans ce cas-là, puis c'est comme je débarque à Brossard dans 5 jours, puis j'ai rien.
Ouais. C'est vraiment épouvantable des cas comme ça, puis. Nous, premièrement, tu sais, n'importe qui vous dit viens-t'en ici, il n'y a pas de problème, on va faire les papiers après, c'est parce qu'il n'y a aucun statut d'immigration qui te permet de commencer à travailler sans les papiers. Fait que, tu sais, à la base, l'information est erronée. Puis effectivement, quand je parlais de vulnérabilité tantôt, c'est ça, ces gens-là, ils sont. C'est pas. Tu sais, ça doit être une job à 200 000 par année. Tu es vulnérable pareil parce que tu te déménages dans un autre pays avec aucun réseau de contact, personne pour te dire ça a l'air d'une entreprise sérieuse, sont enregistrés correctement, etc. Puis il arrive plein d'histoires comme ça. Puis pas plus tard qu'hier, j'avais la discussion avec une collègue qui est chez nous, chez Galiléo, qui elle-même est française. Puis je lui ai demandé justement, j'ai dit, est-ce que ça te tenterait de parler de ton parcours à notre équipe? Tu sais, juste pour que les membres de notre équipe soient capables. Tu sais, des fois, on est dans le droit beaucoup, puis on est dans faire le formulaire, déposer la demande, date limite, non. Puis des fois, on perd de vue la portion humaine de la chose. Puis je suis comme, est-ce que tu aimerais ça parler à l'équipe de ton vécu? Parce qu'à compter, c'était super intéressant. Elle dit, moi, là, au début, l'employeur m'a dit, je te fais une offre, m'envoie un contrat. Tu sais, il faut se mettre dans la peau de ces gens-là. Tu es assis en France. Puis là, elle est française aussi, justement. Tu es assis en France. Puis là, quelqu'un dit, ah, signe ce contrat-là, puis on va déposer une demande pour toi, puis fais-moi un transfert de, t'sais, des frais de traitement, puis je t'envoie ça par t'sais, c'est fou parce que nous, dans notre tête, pour nous, c'est legit comme avocat. Moi, je la connais, mon entreprise cliente, je sais que j'ai fait 30 autres mandats pour eux, je sais qu'ils sont legit. Mais là, il faut se mettre dans la peau de cette personne-là qui est dans un autre pays, qui ne sait pas c'est qui cette compagnie-là québécoise, PME de 50 employés, qui reçoit une demande puis qui fait confiance à cet employeur-là pour lui obtenir un permis de travail. Puis t'en fais pas, tout va être dans les règles puis tout ça. Puis il faut que tu prennes un leap of faith comme employé. Puis elle, ben, elle a eu une histoire à succès dans son cas, évidemment. Elle n'est pas arrivée chez nous par ailleurs, là, donc c'était une autre entreprise à ce moment-là, au moment où elle est arrivée au Canada. Mais c'était quand même des inconnus à qui elle, à son repère, c'était que c'était une boîte qui avait démarré en France. Elle la connaissait en France, donc elle avait comme le feeling que c'était legit parce qu'elle connaissait la boîte française. Mais c'est pas vrai dans tous les cas. Puis dans le cas dont tu parlais et que tu as rapporté, là, c'est une histoire un petit peu moins jojo. Est-ce que lui, il a fait confiance? Puis s'est fait dire oui, etc. Puis il y a tellement de charlatans aussi dans notre domaine qui sont durs à attraper parce que justement, oui, nous, on fait de la relocalisation vers Montréal, sont assis dans des bureaux en France, par exemple. Le barreau ne peut pas les intercepter. Comme on appelle ça un peu des consultants fantômes qui vont dire oui, tu peux venir au Canada, puis on fera les papiers une fois que tu es arrivé. Mais comme si tu parles à un avocat, va te dire, mais il n'y a aucun. Tu peux venir comme visiteur, c'est vrai, tu peux venir comme visiteur, mais comme faire les papiers, commencer à travailler avant que les papiers soient faits.
Je sais même pas.
Pour les visiteurs, quand ils arrivent au Canada, ils peuvent venir pour une durée de 6 mois normalement. Mais ça, c'est quand ils arrivent, tu sais, je vais te donner un exemple classique. Ça, c'est la durée légale. Mais si tu arrives à la frontière et tu dis, moi, j'ai un employeur qui veut m'embaucher, mais je m'en viens attendre, ça peut pas mal que l'agent dans l'aéroport de Montréal, ils disent, parfait, le prochain vol pour Paris repart dans 2 heures. Vous êtes dessus parce que tu t'en viens déclarer que tu t'en viens travailler, mais tu n'as pas encore les papiers. Qu'est-ce qui leur prouve que s'ils te laissent rentrer comme visiteur, tu ne vas pas commencer à travailler avant d'avoir les papiers? Puis, tu sais, il y en a plein qui pensent que parce que tu n'es pas payé, tu ne travailles pas. Mais la loi, elle ne fait pas la différence. Tu travailles, c'est que ce soit rémunéré ou non, si c'est des tâches effectuées au bénéfice d'une société canadienne, tu es en train de travailler. Fait que moi, que tu me dises, bien, je vais commencer, mais je ne vais pas être payé, puis je serai payé quand le permis va arriver, c'est illégal, ça. C'est pas possible. Donc ça, souvent, les gens sont mal informés puis viennent avec la meilleure des intentions puis en faisant confiance à des gens qui semblent en autorité, que ce soit des consultants ou même des fois des patrons d'entreprise. T'inquiète pas, je l'ai fait avec les autres Français qui travaillent chez nous et on en entend plein d'histoires comme ça et on trouve ça plate parce que c'est difficile pour ces gens-là d'aller chercher la bonne information.
Oui, fait que, en tout cas, si jamais vous écoutez puis vous n'êtes pas au Canada puis vous êtes intéressé à peut-être venir travailler, tu sais, je sais qu'il y a des auditeurs en dehors du Canada aussi, faites vos devoirs, assurez-vous que l'entreprise est conforme et que le processus est rigoureux,
exactement.
Puis là, on a parlé des permis fermés. Il y a quand même des permis ouverts qui existent. Mm-hmm. C'est quoi la nuance? Puis qu'est-ce que ça prend pour avoir ce permis-là?
C'est une bonne question. Moi, les gens, des fois, ils me disent « Ah, ça m'a l'air compliqué, le permis fermé, je vais prendre ouvert. » Puis là, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la différence entre les deux, le permis de travail ouvert, c'est un permis qui n'a pas de restrictions au niveau de l'employeur ni des tâches qui peuvent être faites, sauf quelque chose, des éléments légaux qui sont non permis par la loi, là, donc vous pouvez vous imaginer le genre d'industrie qui ne serait pas, disons, de bonne mœurs. Donc, ceux-là sont pas, les emplois ne sont pas permis, mais sinon, c'est ouvert sur le marché du travail, alors que les permis fermés sont restreints, comme on le disait tout à l'heure, à un employeur spécifique. Donc, ça me fait toujours rire, mais moi, je vais prendre le ouvert. Mais oui, mais moi, je n'aurais pas de travail, si, tu sais, dans le sens que ça serait donc bien le fun que ce soit juste des permis ouverts. Mais effectivement, on ne distribue pas des permis ouverts comme des bonbons à l'Halloween. Les permis ouverts sont dans des situations très particulières. Une qu'on peut voir, c'est les accords de libre-échange qu'on a. Puis peut-être que dans ton podcast, tu avais parlé un petit peu du recrutement en Europe. Tu as peut-être entendu parler de EIC, Expérience Internationale Canada, qui est une initiative qu'on a pour la jeunesse avec l'Europe, qui nous permet, bien, je dis l'Europe, là, mettons la France est un des grands utilisateurs, mais c'est des ententes bilatérales par pays. On en a avec l'Italie, avec l'Autriche, etc. Donc, c'est vraiment par pays, les exigences vont changer. Et là-dedans, il y a un permis qui s'appelle le PVT, le permis vacances-travail. Donc, c'est pour des personnes de 18 à 35 ans. Ils peuvent obtenir un permis de travail de 2 ans qui est ouvert. C'est comme une loterie. Donc, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, beaucoup de gens qui ont envie d'utiliser ce permis-là, mais peu de personnes qui peuvent l'obtenir et c'est limité dans le temps. Donc, quand ils arrivent au Canada, ils peuvent effectivement prendre un emploi dans le poste qu'ils veulent, mais quand ils arrivent à échéance, il faut qu'ils renouvellent puis qu'ils trouvent un employeur qui est prêt à leur faire un permis de travail fermé. Fait que ça, c'est l'une des options ouvertes qui existent. Une autre option qu'on voit souvent, c'est quand le conjoint ou la conjointe a un permis fermé, Le conjoint ou la conjointe qui accompagne peut avoir un permis ouvert dans certaines circonstances. Donc, ça, on va souvent en voir. Sinon, pour les étudiants étrangers, par exemple, qui sont venus étudier au Canada, après leurs études, on peut leur donner un permis de travail post-diplôme qui leur permet de travailler ou d'acquérir de l'expérience d'une durée normalement équivalente aux études. Fait que ça, c'est un autre permis ouvert. Il n'y en a pas des milliers de permis ouverts. Là, mettons, je me situe à l'extérieur du Canada. Si on a des auditeurs, justement, qui se situent à l'extérieur et qui ont envie de venir au Canada, il n'y a pas 25 options de permis ouverts. C'est que c'est pour ça qu'il faut généralement trouver un employeur dans la plupart des cas pour avoir un permis de travail qui va être fermé. Ça veut dire qu'il y a un employeur qui a fait des démarches pour vous amener jusqu'ici. Donc, c'est ça la différence entre les deux.
Puis ça, c'est pas facile parce que tu l'as dit, c'est complexe, là. Fait que, puis c'est pas toutes les organisations qui ont des besoins non plus de recrutement à l'international. Fait que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vers où est-ce qu'ils peuvent se tourner pour envoyer leur CV? Est-ce que c'est un peu comme à la pièce, forcément, ou y a-tu des sites d'agglomération de CV? Vous en faites? Est-ce qu'on peut vous envoyer des CV?
Oui,
bien
c'est ça. On va faire on va plugger la Minute Galiléo. Nous, sur notre page, on a une page candidat. Donc, même si vous pouvez aller voir sur notre site web, sur le site web, on a une page candidat qui peut vous permettre de déposer votre CV, même si vous allez voir tous les postes qu'on recrute en ce moment. Si votre CV convient à ça, vous pouvez le déposer dans un poste spécifique, mais si votre CV ne convient pas à un des postes qu'on a à l'heure actuelle, vous pouvez aussi le déposer juste de manière générale. Puis nous, on se crée une banque de candidats, fait qu'on a un poste qui arrive, bien, on a déjà des candidats dans cette banque-là. Mais sinon, il y a plein d'options. Il y a des firmes, tu sais, là, on est dans le privé quand on parle de, mettons, nous ou d'autres firmes de recrutement, mais il y a aussi des initiatives qui sont menées par exemple, Montréal International, Québec International, qui sont des organismes qui vont ratisser beaucoup plus large, qui font des partenariats avec les MRC en région pour des pôles emploi, etc. Donc, eux, bien, ils ont aussi des ressources pour les personnes qui voudraient immigrer ici. Donc, là, c'est aussi un gage aussi de les partenariats qu'ils font sont avec normalement des agences qui ont les permis adéquats pour
tout comme avec
générer.
Vous, là, tu sais,
oui,
c'est des
ça.
Clients qui sont
oui,
sérieux.
Exactement,
aussi,
nous, c'est ça, c'est des clients qui sont sérieux, effectivement. Là, on travaille juste avec des clients qu'on vérifie c'est quoi l'entreprise, etc. Mais on entend plein de choses, là, des fois, dans le recrutement, il y a toutes sortes de choses. Mais c'est ça, il y a ces options-là. Puis parfois, il y a même le gouvernement du Québec va faire des missions, par exemple, à l'étranger, où est-ce que là, ils vont hoster des conférences ou des choses comme ça dans des grandes villes, à Paris, entre autres, mais il y en a aussi en Afrique du Nord, etc., pour pouvoir mousser ou un peu expliquer comment on peut immigrer au Canada. Donc, il y a plusieurs ressources, puis c'est ça que c'est difficile de s'y retrouver parce qu'il y en a plein. Justement, comme la conversation que je parlais hier de ma collègue, elle racontait qu'elle, au début, il y a une firme qui lui a offert de payer 800 euros pour avoir le droit de mettre son CV dans une banque de candidats. Puis que là, eux autres disaient, « Ah, nous, on a beaucoup, beaucoup de postes à Montréal, puis on va te matcher. » Mais là, quand tu regardais les reviews en ligne de cette société, elle n'a pas fait affaire avec eux, mais quand tu regardais les reviews, c'est plein de monde qui allait commenter, « C'est un scam, faites attention, ils vont vous promettre la lune, mais ils vont jamais… »
Elle doit tellement en avoir.
Il y en a tellement. Il y a tellement de choses. Il faut faire attention. Pour moi, là, une firme qui recrute de manière bienveillante ne va jamais vous exiger de l'argent pour avoir droit à une entrevue. Mes collègues cet été, de notre équipe de recrutement, sont allés au Sénégal et au Maroc recruter, puis entendu des histoires de gens qui ont payé 200, 300 $ canadiens, 500 $ canadiens pour avoir droit à des entrevues dans des grandes compagnies québécoises.
Dans des grandes compagnies?
Oui. Puis, tu sais, la compagnie, elle ne sait pas, je suis convaincue. Puis nous autres, on a, mettons, tu sais, puis sans rentrer dans le détail, je vais rester très... Mais on a pu, disons, perdre un appel d'offres, disons comme ça, d'avoir l'opportunité de recruter pour cette compagnie-là parce que Galileo, on était trop cher. Là, je dis cette compagnie-là, il y a une anecdote, mais il y en a d'autres, OK? Mais on était trop cher.
Parce que vous êtes des experts avec une expertise légale.
Ben c'est ça, justement, c'est qu'il y a un peu de tout dans le milieu. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est difficile des fois de vendre un peu qu'est-ce qu'on fait. Mais là, d'entendre justement des histoires comme ça, où un candidat, nous, on le dit toujours à nos candidats, je pense que les recruteurs dans notre équipe, la première phrase qu'ils disent, c'est, en passant, si jamais quelqu'un vous exige des sous pour une entrevue avec nous ou quoi que ce soit, tu sais, on le dit tout de suite, mais avec nous, mais avec l'employeur. Mais moi, je suis convaincue que cet employeur-là au Québec, il n'a aucune idée que ça peut se passer comme ça, mais c'est qu'ils font affaire avec des firmes, que des fois, ils ont des rabatteurs dans d'autres pays, puis là, fait, comment ils font pour charger une fraction du prix que nous, on charge? Ben peut-être en exigeant des affaires comme ça. Fait que, oui, c'est, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Puis je le dis, j'espère que ceux qui vont m'entendre m'entendent, c'est pas normal de se faire charger des frais pour avoir accès à une entrevue. Puis on contrôle pas, c'est ça le downside avec ce qui se passe à l'étranger, c'est que c'est super difficile, même si le gouvernement canadien voulait réglementer ces pratiques-là, puis même si les compagnies d'ici qui font du recrutement, qui donnent des mandats à des firmes, on en entend dans les médias tout le temps, des scandales de firmes qui ont recruté des travailleurs étrangers, puis là, les gens sont pris dans des situations pas possibles. Fait que c'est super difficile, même pour les compagnies les mieux intentionnées, de s'assurer de quelque chose qui se passe dans un autre pays. C'est super difficile. Fait que je veux pas mettre le blâme sur des compagnies canadiennes non plus. Et puis, par ailleurs, ces firmes-là, là, ils ont leur permis là, pour exercer puis tout ça, mais on n'est pas tout au courant de ce qui se passe dans les autres pays. Fait qu'il faut faire hyper attention. Puis c'est là que ça devient, comme quand on parle que l'immigration, c'est ça, de faire des projets d'immigration qui sont bienveillants puis qui sont à l'écoute de ce que les gens ont besoin, mais ça part du début, ça part de ne pas exiger un montant pour une personne avoir accès à une entrevue. Hey, ces gens-là, c'est des gros sous qu'ils mettent de côté parce que tout ça au profit du rêve de venir au Canada, fait que c'est des gens qui sont extrêmement vulnérables. Il faut absolument les protéger des personnes. Puis là où il y a de la vulnérabilité, il y a toujours place aux personnes malveillantes.
Ah oui, c'est clair.
T'sais, ça, c'est vrai dans tous les domaines. Fait qu'il faut faire super attention. Dès qu'il y a il y a toujours quelqu'un pour prendre... Avantage, qu'il y a une avantage des gens tout le temps. Fait que c'est tough à contrôler, puis c'est tough à entendre quand on fait les choses
ouais,
bien.
Oui, vraiment, mais tu vois, je pense que, parce que je te l'ai nommé, là, il y a souvent des gens qui m'écrivent, puis je pense que je vais leur partager cet épisode, puisque ça donne plein de ressources, puis en même temps, ça donne
ça,
aussi des outils.
D'entendre un peu ce qui
est
supposé être fait, puis... Puis tout ça, là, fait que...
Puis là, on a parlé, des côtés un petit peu, comment ça se passe en amont, là. Donc, OK, la première étape, c'est de dire, OK, on est-tu prêt à s'investir dans ce processus-là? Après ça, bon, quel genre de... Bien comprendre les sortes de permis, tout ça. Il y a aussi les bassins de talent, tu sais, de comprendre où est-ce qu'on peut aller recruter. Mm-hmm. Et ça aussi, j'imagine que c'est quand même il y a des particularités qui sont liées à chacun des pays.
C'est ça.
Vous travaillez surtout dans quel domaine, ben pas dans quel domaine, mais dans quel pays?
C'est ça, là, j'aimerais ça que mes collègues du recrutement soient là parce que je veux pas dire des choses fausses en termes de comment ils évaluent les bassins, là, parce que ça, c'est comme un peu moins mon expertise, là, fait que je fais mon caveat là-dessus. Je peux dire dans quel bassin on recrute, là, évidemment, mais dans le sens que, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on choisit un bassin plutôt qu'un autre? Il y en a qui me disent, moi, j'en ai des Marocains dans mon équipe, j'aimerais ça en avoir d'autres. Je trouve, tu sais, c'est pas toujours ça. C'est, on va chercher dans les bassins où est-ce qu'il y a un talent particulier qu'on connaît en fonction des besoins de chaque employeur. Fait que c'est pour ça qu'on fait toujours une prise des besoins. Mais nous, on recrute quand même principalement au Maroc, en Tunisie, à Madagascar et au Sénégal parce qu'on a tranquillement développé les bassins là-bas, parce que c'est une immigration qui est francophone. Donc, on a effleuré le sujet tantôt un peu des cadres gouvernementaux, le parti au pouvoir actuellement, met beaucoup d'emphase sur le français. Et donc, on pense que ce sont des bassins de gens qui sont mieux susceptibles d'être capables de s'intégrer à terme sur la notion de maîtrise du français que des bassins, par exemple. Nous, on a vu qu'il y a des firmes de recrutement, par exemple, qui recrutent beaucoup aux Philippines, entre autres. Énormément de gens là-bas qui veulent venir ici. C'est super pour ils arrivent, ils sont willing de travailler au Canada, mais là, oups, arrive un enjeu où est-ce que ça fait 2 ans qu'ils sont là, le permis de travail expire. Là, ils veulent commencer à regarder la résidence, mais ils ne parlent pas un mot de français. Et là, ils ont été recrutés dans une cohorte de 50 Philippinos. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils se parlent entre eux en anglais au travail. Ils n'ont peut-être pas dans le milieu de travail besoin de développer le français tant que ça. Et là, ben, ça fait que 2 ans plus tard, ben, ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas nécessairement de parcours clair vers la résidence permanente parce qu'ils ne parlent pas le français. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a choisi ces bassins-là. Puis ensuite aussi, par raison de proximité avec ce que nous, on connaît. T'sais, évidemment, on a commencé par le Maroc parce qu'on a une équipe là-bas. Donc, on connaissait bien ce marché-là. Les gens qui sont arrivés dans notre équipe connaissaient très bien ces marchés-là initialement. Puis après, on a développé tranquillement en fonction aussi des postes qu'on a eu à recruter chez des clients. Mm-hmm. Donc, des fois, tu as un client qui te demande un besoin dans un certain secteur. Puis là, tu découvres qu'à Madagascar, par exemple, il y a une école dont à chaque année, il y a 50 personnes qui graduent dans ce domaine-là. Puis là, ben là, tu fais un partenariat avec l'école tranquillement. Puis tu regardes des gens récemment gradués qui voudraient ou des gens qui sont issus justement de ce milieu-là. Fait que c'est toute une question aussi de contact dans les bassins de... Les bassins de de recrutement, talent, ouais. de talent, etc. Fait que nous, c'est ça, on est parti de l'idée de recruter plus francophone. Je ne dis pas qu'on ne recrute pas dans d'autres pays, parce que des fois, c'est par expertise, puis on n'a pas le choix d'aller dans des bassins hispanophones ou anglophones, par exemple. Mais on essaye à la base de travailler sur des bassins francophones pour la raison évidente que quand ils arrivent au Québec, l'intégration à long terme, elle est plus facile. La barrière de la langue. Puis il y en a une petite barrière de langue quand même. Hein. Le français, il peut parler de la même manière partout. Mais ils partent avec une longueur d'avance, disons, puis ça fait moins de challenges à travers tous les autres challenges qu'ils peuvent vivre dans leur intégration.
Puis avant qu'on commence, parce que là, tu parles beaucoup de recrutement bienveillant, puis moi, j'adore cette piste-là, là, parce que je pense qu'on a besoin d'en parler aussi. Puis avant qu'on commence à enregistrer, tu avais commencé à me parler aussi, justement, de l'éthique aussi. Mettons, on se remonte à un niveau politique, là, de cette idée-là d'aller recruter les meilleurs talents dans des pays qui en ont aussi besoin. Je t'ai comme coupé le sifflet, mais j'aimerais ça qu'on en parle, parce que, tu l'as nommé, on a un grand besoin... de main-d'œuvre parce qu'on a une population vieillissante, entre autres, puis pour toutes sortes d'autres raisons, tu sais, puis il y a des expertises qui se développent. T'sais, nous aussi, il y a des gens qui viennent chercher des talents au Québec, puis nous, on va chercher des talents ailleurs dans le monde. Est-ce que tu penses que ça peut même être une, je sais pas comment dire, une menace, tu sais, à un niveau économique et politique dans les prochaines années, ces mouvements de main-d'œuvre-là, tu sais, autant pour nous que pour les autres pays?
Mais je pense qu'il faut faire justement attention quand on va recruter à l'étranger. C'est des pays qui ont des gens qui veulent définitivement venir au Canada parce qu'ils ont espoir d'une vie meilleure pour leur famille. Mais il faut faire attention de ne pas laisser ces pays-là sans les ressources les plus importantes de leur pays. Je donne un exemple. Les infirmières. On en a besoin ici des infirmières. Mais si on s'en va dans un pays où est-ce qu'on sait qu'il y a des très, très bonnes infirmières puis si on va recruter toutes les meilleures, qu'est-ce qui va advenir du système de santé dans ce pays-là? Puis ça, c'est quelque chose que il y a des missions à l'étranger dont le gouvernement fait la promotion, mais on commence à entendre ces enjeux-là dans les autres pays. Oui, mais vous venez nous chercher notre main-d'œuvre, vous venez nous chercher les meilleurs. Il faut s'assurer qu'on ne laisse pas ces pays-là sans des personnes essentielles ou qu'on trouve des méthodes pour renvoyer aussi vers ces pays-là, par exemple. Si on fait des processus de former certaines personnes, par exemple, on donne accès à plus d'infirmières de ces pays-là de venir étudier au Canada, puis dans ce contexte-là, elles vont faire un an ou deux de travail ici, mais avec l'intention de faire des partenariats scolaires où est-ce qu'on peut les retourner dans le pays, les infirmières, avec un bagage particulier. Donc, mettre en place des partenariats qui sont plus long terme, qui ne sont pas juste d'aller, je ne veux pas dire voler, mais aller chercher cette main-d'œuvre-là, puis la voler d'une certaine manière à cet autre pays-là qui, eux, généralement, quand on parle de pays comme ça, ben peuvent parfois être des pays qui sont moins bien développés que le Canada, qui a des besoins plus criants dans certaines industries. Là, c'est frappant, l'infirmière, parce qu'on pense à laisser un hôpital qui aurait plus d'infirmières là-bas. C'est comme, ça choque l'imaginaire. Mais ça peut être aussi dans des pôles économiques importants comme l'aéronautique. On a beaucoup d'aéronautique à Montréal, mais il y a des pays qui tentent de se démarquer en aéronautique en Afrique, entre autres, qui ont besoin de ces expertises-là. Donc, il faut essayer de faire des partenariats qui sont, c'est ça, bienveillants, qui nous permettraient aussi de s'assurer peut-être, est-ce qu'une école canadienne, par exemple, voudrait aller s'implanter là-bas puis permettre à plus de gens d'être formés? Par exemple, au Sénégal, il y a quand même un haut taux de chômage. Donc, nous, cet été, quand on est allé faire une mission de recrutement, on a fait un partenariat avec une association là-bas qui est pour l'emploi de la jeunesse. Eux, ils étaient contents de donner des opportunités à leurs jeunes. Ils ont 23 ans, 24 ans, 25 ans, 30 ans. Ils n'ont pas d'opportunité d'emploi. Ils rêvent de venir ici. Mais est-ce que nous, on ne pourrait pas justement avoir un campus d'une de nos écoles pour aller former des gens là-bas, justement, puis peut-être créer des opportunités pour ces gens-là, justement, d'ouvrir des entreprises ou de s'il y a plus de gens qui sont formés, bien, peut-être qu'ils pourraient, justement, ouvrir une manufacture, devenir compétiteurs, de se créer leur propre économie aussi. Fait que je suis certaine que le Canada, puis là, c'est pas Galiléo qui peut régler ce problème-là qui est plus large, mais je suis certaine que le Canada et le Québec, on aurait vraiment avantage. Je pense que c'est dans la mire du gouvernement aussi parce que j'ai entendu certains représentants gouvernementaux parler, entre autres, au sommet de l'immigration, mais dans d'autres forums également, dans les derniers mois, que c'est des choses qu'on veut penser à faire, établir des partenariats avec des écoles, voir comment on peut permettre à ces pays-là aussi de ne pas devenir vulnérables du fait qu'on est pigé dans leur banque d'expertise et de candidats.
Oui, bien, c'est ça. Puis c'est super intéressant quand on se met à creuser. Puis bien sûr, comme tu le nommes, tu sais, ça, c'est un niveau, tu sais, qui nous dépasse dans le sens que c'est un niveau politique. Mais je pense que c'est quand même bien d'en être conscient comme employeur ou, tu sais, comme spécialiste dans le recrutement. Il y en a plein, là, en RH, qui nous écoutent, là, que je suis sûre qu'ils en font, là, tu sais, du recrutement international dans le cadre de leur fonction. Fait que d'avoir cette, même si c'est à petite échelle, de se dire, OK, ben si il y a un pays où on recrute, c'est comme il y a quelque chose qu'on peut faire comme entreprise. C'est souvent on essaie d'avoir de l'impact social aussi comme organisation.
Ben oui.
Fait que ça peut-être être quelque chose d'intéressant de, je sais pas, là, avoir un partenariat ou contribuer, soit par des dons ou autrement à l'économie d'un pays où on va chercher des talents. Fait qu'en tout cas, quelque
C'est
chose
ça. Tu
de...
sais, j'ai même pas moi-même, tu sais, là, je suis invitée, puis j'essaie de
Ah oui, on
humblement
se
te
pitch
donner,
ça.
non, mais tu sais, te donner mon opinion humblement, mais comme je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui pourraient t'en parler encore plus longtemps dans des organismes d'intégration, des nouveaux arrivants, puis de toutes sortes, tu sais, moi, j'ai ma lunette de ce que je fais à mon travail, puis chez Galileo. Puis ce qu'on entend dans le milieu, puis on essaye d'avoir l'oreille ouverte à ces choses-là, puis d'avoir ce discours-là de plus en plus. Mais je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui pourraient encore donner plus de ressources, puis en parler de façon plus large. Mais je pense que d'être conscient des enjeux, c'est déjà un premier pas vers, effectivement, de faire des choix qui sont conscients de ces réalités-là. Surtout, tu sais, dans les domaines comme médical, tu sais, quand on est préposé aux bénéficiaires, tout ça, mais il y en a d'autres des pays qui ont des populations vieillissantes aussi qui vont avoir le cas comme nous, avoir besoin de personnes pour prendre soin de leurs personnes vulnérables, de leurs personnes âgées, etc. Fait qu'il faut trouver des manières de le faire de manière éthique.
Oui, parce que comme tu le dis, c'est pas sur le point d'arrêter toute cette histoire-là de
Non, c'est
recrutement
ça, c'est ça. Puis
international.
c'est correct parce que peut-être que ces pays-là, ils ont, tu sais, comme je le disais, au Sénégal, il y a quand même un haut taux de chômage en ce moment. Fait que l'association avec laquelle on a travaillé là-bas était contente de donner des opportunités à leurs jeunes, tu sais. Puis c'est beau de voir ça, puis c'est correct. Mais il faut juste aussi penser qu'effectivement,
Oui.
peut-être qu'à certains égards, on faut pas vider les pôles non plus
Non.
de talent.
T'sais, nous, ben là, si je place le Canada dans la position inverse, on est beaucoup moins vulnérable que certaines économies, là, dans le sens qu'on est super chanceux, on a une économie diversifiée, puis ça va bien, puis tout ça, puis on est plus dans une position où on cherche
C'est
des
ça. Nos gens
talents.
qui partent comme des expatriés, c'est comme
C'est
c'est
ça.
cool, tu sais, je suis en Norvège, je travaille depuis 5 ans en Norvège. Tu sais, c'est moins des cas comme ça là, qu'on les
Mais il y en
déracine
a
des gens,
quand
là.
même aussi
Il y
dans
en a.
des expertises très clés, tu sais, où par exemple aux États-Unis, des fois j'entends ça dans des organisations, de dire. OK, ça devient vraiment tough d'être compétitif sur le marché puis de garder nos talents parce que il y a des entreprises, surtout avec le travail à distance, là, tu sais, de décloisonnement dans certaines industries. Tu dis OK, ben, tu sais, ils ont les moyens de payer beaucoup plus, ils n'ont pas les mêmes contraintes.
C'est ça. Puis ils peuvent prendre quelqu'un à Montréal, par exemple, un
Ouais, c'est
Canadien à
ça.
Montréal, puis le payer en dollars US, fait que lui, le Canadien, ça.
Exact, là, tu
Puis
sais.
même en, pas plus loin qu'en Ontario, hein, je sais qu'on est au Canada, mais tu sais, en Ontario, il y a plein d'histoires, tu sais, qu'on entend. Ah, ben eux, ils ont des meilleures conditions de travail pour tel type de poste, ou tu sais, on en perd, fait que c'est sûr, là, que tout le monde joue du coude pour avoir les meilleurs
Exact.
talents, ça c'est sûr. Mais oui, effectivement, je pense que, mettons, si on se compare à certains des pays que j'ai nommés tout à l'heure, c'est clair qu'on est un peu, on est moins
C'est pas
vulnérable à que, tu
même,
sais, c'est pas des enjeux sociaux à la même échelle, je pense.
Non, tout à fait. Puis quand on parle de recrutement bienveillant, parce que j'aimerais ça qu'on reste là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, puis en même temps, on fait un peu le processus, tu sais, des questions à se poser. Mais une fois que la personne, ben, même avant que la personne en arrive, là, comment on l'accompagne? Puis qu'on s'assure que c'est un succès, puis que tout le monde est prêt, tu sais, outre là, les papiers, tout est réglé. Tu nous l'as parlé un peu tantôt, on parle à tout le monde, on parle aux collègues, mais y a-tu d'autres choses à penser? C'est comme si c'était un enjeu de loger la personne dans certaines localités
Ben
ou.
oui, ben oui, il y a plein, il y a tellement d'aspects là, là-dedans là, de préparer les gens. Nous, on commence, puis là, encore une fois, j'aimerais ça que mes collègues du recrutement puissent vraiment venir en parler. J'ai pas la prétention d'avoir toutes les connaissances de comment on gère ce processus-là parce qu'ils sont là dans le quotidien. Mais on fait des séances d'information dès le début, là, les premières entrevues, là, dès qu'on parle à des candidats, on fait des séances d'information avec eux sur c'est quoi le Canada, à quoi s'attendre. Puis tu sais, il y a des choses évidente qu'on pense, le manteau d'hiver, il fait froid ici, le savez-vous, avez-vous compris? Mais il y a plein d'autres aspects à l'intérieur de ça. S'assurer, on leur donne un peu, puis on ne peut pas tout faire non plus parce qu'on demeure un cabinet d'avocats et un service de recrutement international et un service de relocalisation. On n'est pas non plus des intégrateurs, tu sais, on fait un service qui est quand même limité, mais on veut quand même s'assurer de leur donner les outils de base. Par exemple, au niveau de la compréhension de l'économie et du salaire. Je donne l'exemple. pour eux, là, 25 $ de l'heure, ça a l'air énorme parce qu'ils prennent le chiffre sur le contrat de travail, puis ils mettent dans leur monnaie locale, puis là, ils regardent ça, puis ils se disent, mon Dieu, je vais être riche.
Ouais, là, sans compter l'impôt et tous les
choses. Ce n'est pas juste l'impôt, ouais. C'est le pouvoir d'achat.
Aussi, ouais.
Fait qu'eux, s'ils regardent un 25 $ de l'heure qui peut représenter une journée, deux journées, trois jours de travail dans leur pays, puis ils transfèrent, puis là, ils regardent ce qu'ils peuvent s'acheter dans leur épicerie locale, dans leur pays, avec ce chiffre-là, ils sont comme « wow ». Mais là, nous, on essaie de les éduquer que quand ils vont arriver ici, leur 25 $ de l'heure n'a pas le même pouvoir. Fait que ça a l'air beaucoup dans leur monnaie, mais on leur explique que c'est, tu sais, ça a l'air un peu banal ce que je dis, mais qu'avec 25 $ ici, mettons, on sait avec l'inflation et tout ce que ça coûte manger à l'épicerie, mais eux, avec leur perception, ils n'ont pas nécessairement cette compréhension-là. Fait qu'on leur explique le concept d'imposition, c'est peut-être pas acquis pour tout le monde. Le concept, puis même à la base, comment les banques fonctionnent ici, c'est pas pareil que dans ces pays-là nécessairement ou le pays dont la personne vient. Peut-être que si on dit, par exemple, pour les Français, c'est peut-être la même chose. Je dis pas...
Mais même pas. Je pense que c'est la carte bleue.
Oui, si c'est ça. Mais tu sais, eux autres, par exemple, il y a certaines choses, des frais de notaire puis des affaires de même qui peuvent... Mais tu sais, le concept des banques, comme on les connaît, ils ont quand même un endroit où est-ce qu'ils mettent leurs sous, tu sais, bon. Mais même eux, des fois, ils vont te donner leur salaire en... Quand ils vont parler de salaire, ils vont te le donner en brut. En net, pardon, nous, on le donne en brut. Tu sais, eux, ils vont dire leur salaire net après tous les impôts. Puis c'est comme ça qu'en France, ils fonctionnent. Fait que des fois, je reçois, quelqu'un me dit, je leur demande leur salaire pour remplir les papiers. Puis là, ils me disent, mettons, 20 000 €. Puis je suis comme, c'est impossible, là, tu travailles dans une grosse compagnie. Mais c'est parce qu'eux, ils font en fait 36 000 € par année. Mais c'est que là, ils ont les impositions, puis les charges sociales, puis ci, puis ça. Puis ce qui leur reste, c'est ce qui est net dans leur poche. C'est ça qu'ils me disent. Donc, les petites choses comme ça, c'est des mœurs qu'on prend pour acquis, nous, parce qu'on vit dans le quotidien ici, mais qu'eux ne savent pas. Fait qu'on essaie vraiment d'emblée, dès les premières rencontres, de les outiller à ça, les préparer aussi à savoir que quand ils vont arriver ici, là, ça a l'air bien cool, là, quand, mettons, tu as passé toute ta vie avec ta famille, puis souvent, il y a des pays là, dans lesquels, en Afrique du Nord, entre autres, où est-ce que c'est comme c'est culturel de vivre avec ses parents jusqu'à ce qu'on se marie ou peu importe. Puis là, ta maman, elle sera peut-être pas là pour faire à manger. T'sais, si toi, tu habitais avec tes parents toute ta vie puis ta mère a toujours fait à manger, tu as 35 ans, puis là, tu arrives à Montréal, tu vas être en colocation peut-être dans un appartement, il va falloir que tu te fasses à manger. Le manteau d'hiver, comme on l'a mentionné tantôt. Et c'est toutes des choses qu'on veut qu'ils soient prêts. Tu n'auras pas de réseau, ta famille, de réseau de contact, je veux dire, ta famille, elle sera pas avec toi, les préparer à ça. Alors qu'il y a peut-être certains pays ou certains bassins dans lesquels c'est plus acquis pour eux de vivre à l'étranger. Je pense entre autres aux Philippines. C'est culturel là-bas de vivre. Il y a des gens des Philippines qui vivent à Singapour, à Dubaï, dans plein de pays à l'extérieur dans le monde. Eux, il y a comme ça fait longtemps dans les générations que c'est acquis pour eux de travailler hors du pays. C'est comme une. Tu sais, pour eux, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent pas du tout. Il y a d'autres bassins. Avec lesquels on travaille, que pour eux, c'est pas dans la culture de travailler à l'étranger, un expatrié, ils vont être le premier de leur famille à avoir fait ça, ils n'auront pas vécu ça. Là, je fais des généralisations, mais c'est pour un peu pour illustrer que ben, ces gens-là, eux autres, c'est pas clair pour eux, ça va être quoi de travailler dans un autre pays. Fait qu'on essaie de leur expliquer, ta famille sera pas avec toi, puis oui, mais quand c'est autre chose quand tu dis oui à l'entrevue au début, puis quand t'arrives ici, puis t'es oui, tout seul pour vrai, il est 5 h un jeudi soir, un 8 février, il fait moins 22, faut que tu marches de ton usine à ton appartement, puis tu vas peut-être dire, oh, en quoi je me sens embarqué. Fait qu'on essaie de commencer très tôt dans le processus, pour pas justement qu'ils arrivent ici puis que ça fonctionne pas. Puis là, on a fait tout ce processus-là, on les a déracinés pour que finalement, ils soient pas bien. Fait qu'on peut pas toutes les avoir hein, avec la préparation. Il y en a toujours qui n'auront pas tout envisagé. Il y a toujours plein d'aléas qui peuvent arriver. On travaille avec des humains. Mais on essaie de faire un travail le plus en amont possible pour leur expliquer la nouvelle réalité à laquelle ils vont faire face. Nous, on le réalise beaucoup justement, c'est à travers, tu sais, ça fait seulement quelques années qu'on fait du recrutement international, fait que j'ai pas la prétention qu'on ait tout vu, tout connu, mais on s'améliore à mesure qu'on vit des situations où est-ce que, tu sais, on a par exemple, quand la plupart des compagnies en recrutement international vont donner des garanties sur le candidat. Mais là, c'est pas long que tu réalises que si tu l'as pas préparé à la réalité qui arrive ici, tu es aussi dans la chaise où est-ce que tu dois honorer une garantie parce que le gars, il est parti, puis ça n'a peut-être pas rapport au travail, ça a rapport au fait qu'il avait pas envisagé toutes les autres affaires qui viennent avec de changer d'emploi, de changer de vie, de changer de pays, tu sais. Fait que ça, ben au début, mettons, peut-être que, puis peut-être comme plein de firmes, je pense, ne font peut-être pas tout ce travail-là de préparation. Fait que j'imagine que s'il y avait de la statistique, j'ose croire que, à date, en tout cas, dans les cohortes qu'on a fait, il y a quand même un très bon taux de rétention. Fait que je suis contente. Puis j'aime croire qu'entre autres, ce travail-là qu'on fait vise à bien préparer les gens. Puis qu'on on travaille aussi très fort avec nos employeurs, hein, les conscientiser de ce qui va leur arriver quand les gens arrivent, des questions qui vont être posées par les autres employés. Il y a plein d'enjeux, là. J'espère que si on avait une statistique, notre taux de rétention chez Galileo, il serait positif, il rankerait haut dans les taux de rétention parce qu'on fait ce travail de préparation-là, mais j'y crois tellement, là. J'espère que ça transparaît dans ce que je raconte.
Oui, vraiment. Puis bien, moi, je me demandais plus aussi à l'échelle globale parce que je me disais, ça doit être tellement variable aussi d'une industrie à l'autre, mais surtout d'un employeur à l'autre, justement à cause de comment les choses sont faites. Mm-hmm. Puis à quel point le milieu est préparé, ça doit faire une grande différence.
Oui, bien, je suis certaine que ça le fait, sinon on ne ferait pas tout cet effort-là. Ouais. Là, je suis certaine que... mais tu sais, des fois, on vit des situations, puis on s'ajuste par la suite. T'sais, je vais donner un exemple, un super beau réflexe que mon collègue Martin, qui s'occupe de la relocalisation, a eu. On a recruté quelques postes pour une entreprise qui se trouve en région, disons une région qui n'avait pas beaucoup d'immigration antérieure. Et là, il y a eu le réflexe, c'était une cohorte de personnes de confession musulmane, il y a eu le réflexe d'appeler l'épicerie du coin, qui est comme la grosse épicerie dans cette région-là, pour leur dire « Est-ce que vous avez de la viande halal? » Ça a l'air niaiseux, mais là, on a 8 gars qui arrivent, puis qu'eux, ils mangent halal. Puis il faut penser à cette réalité-là. Ça n'a rien à voir avec le candidat. Ça n'a rien à voir avec son CV. Ça n'a rien à voir avec tous les papiers d'immigration que nous, on a fait. Ça n'a rien à voir avec son logement. Ça n'a rien à voir avec toutes les choses de base que tu as pu penser. Mais il débarque vendredi, puis peux-tu manger tous les aliments qu'on a à l'épicerie? Puis là, le propriétaire de l'épicerie a dit, « Ben là, je suis super willing, il a fait des recherches, puis il a fait rentrer ce qu'il fallait. » Fait que c'est juste pour illustrer, tu sais, que des fois, c'est des enjeux complètement autres. Mais ces gars-là, quand ils sont arrivés, là, ils ont pu s'acheter quelque chose. Puis je comprends que là, on peut manger végé, tu sais, puis qu'il y a des options. Là, c'était pas comme s'ils arrivaient à l'épicerie, puis ils ne pouvaient pas se nourrir. Mais... c'est quelque chose que ça a l'air de rien comme ça, c'est anodin. Mais moi, je salue ce geste-là que mon collègue Martin a eu, la présence d'esprit de se poser la question, est-ce qu'ils vont avoir accès? Parce que c'est pas nécessairement quand on fait des gros chiffres, on s'en va pas au resto à tous les soirs, puis on veut aller à l'épicerie puis se faire à manger aussi. Là. Mm-hmm. Fait qu'il y a eu ce réflexe-là, puis je l'utilise toujours comme anecdote pour dire, ça va beaucoup plus loin. Ce qu'on fait, c'est un projet de société. C'est pas juste un projet de papier, puis j'ai chargé tant pour recruter. T'sais, on pense à tout l'aspect chasse de tête. J'ai signé un loyer, j'ai la chasse de tête au début, j'ai fait les papiers dans le milieu. Ça, c'est la mécanique.
Ouais.
Mais après, tout le reste, ça vient avec, c'est l'humain, puis les enjeux sont infinis. C'est vraiment un projet de société. Il ne faut pas le prendre à la légère. Puis on a un devoir. On va aller chercher ces gens-là en leur promettant une vie meilleure. On a un devoir de les intégrer adéquatement. C'est essentiel.
Oui, parce que là, quand ils arrivent, ben, tu l'as nommé, il y a toutes c'est l'environnement puis tout ça, mais il y a aussi plein d'aspects comme dans les infrastructures. Là, est-ce que je suis couvert par une assurance? Parce que tu n'es pas sans RAMQ quand tu débarques au Canada.
C'est
donc,
ça, il y a certaines obligations que l'employeur doit rencontrer. Fait que des fois, ils vont être protégés comme ça, mais c'est un bon exemple que tu donnes. Par exemple, l'assurance maladie, là, moi, quand j'ai commencé à travailler, là, c'était pas la même affaire. Depuis, ça fait quelques mois ou un an et que c'est obligatoire de donner une assurance maladie tampon. Là, ça ne l'a jamais été. Là, maintenant, on éduque les employeurs là-dessus, mais c'est même pas dans tous les programmes, mais dans certains programmes, il faut fournir une assurance maladie tampon pour la période. Mm-hmm. Nous, on l'a toujours mentionné en disant aux employeurs en passant, il y aura une période de carence pendant laquelle il n'y aura pas de couverture. Fait que des fois, les employeurs d'emblée multinationales, ils vont même avoir déjà des avantages sociaux qui couvrent ce genre de voyage international-là. Mais effectivement, si la personne tombe malade, arrive ici, elle attrape, c'est niaiseux, là. Ça peut être la COVID sous l'avion, là. Une personne en pleine santé, COVID sous l'avion, difficulté respiratoire, se présente à l'urgence pour un inconfort, ça peut être juste une pompe de cortisone, ça y prend, là, je ne sais trop, là, excusez-moi s'il y a un médecin qui m'écoute et qui se dit « mais qu'est-ce qu'elle raconte? » Mais tu sais, vous comprenez un peu, ça peut être quelque chose, les gens me disent « moi, je suis en bonne santé », d'accord, on n'est jamais à l'abri d'une urgence. Par chance, ici, on les prend, les gens, on les fait payer, mais on les prend quand même à l'urgence. Il va y avoir les soins qu'ils ont besoin, mais c'est ça. C'est même pas encore tous les programmes qui l'exigent. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut penser à l'intérieur de ce beau projet.
Oui, puis ça sera bien de voir comment on évolue justement comme société là-dedans. J'avais vu une statistique, c'est une statistique au Canada là, que j'avais repartagée, là, puis c'est comme, puis là, mon Dieu, je vais peut-être même faire une erreur en la citant, mais il me semble que c'est quelque chose comme près de 40 % de la population canadienne, non, le tiers, c'est autour du tiers. Excusez-moi, je suis fatiguée, c'est vendredi.
Ouais, c'est correct, on l'a dit tantôt, c'est vendredi.
Ça, c'est vendredi, mais qui va être issu de l'immigration. Tu sais, d'ici 2036. Mm-hmm. Puis je pense que c'était ça autour du tiers.
Mais c'est
ou en
fou,
tout
là.
Cas, c'est quand même majeur. Ça, c'est canadien. Je pense qu'au Québec, on est un petit peu en dessous de ça quand même. Mais reste que c'est une réelle transformation sociale, comme tu le nommes. Fait que, fait que c'est important d'être bien outillé et surtout conscient de l'impact des décisions qu'on prend. Je pense que tu l'as super bien exposé. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais partager en termes de ressources que les employeurs ou les gens qui s'en viennent ici au Canada, tu sais, vers quoi ils peuvent se tourner? Y a-tu des sites avec des références que tu connais qu'on pourrait mettre dans les notes?
Bonne question. Il faudrait que je regarde sur quoi on pourrait orienter les gens. Moi, c'est ça. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de missions qui se font. C'est vraiment dur
de choisir.
Je pense que mon réflexe comme ça serait de s'orienter vers des partenaires comme Montréal International, Québec International, Immigrants Québec, qui sont des plateformes qui regroupent vraiment là, des ressources super importantes puis qui font un travail pour s'assurer que les ressources qui sont là sont adéquates. Fait que, ouais, j'irais mettons, pour la province de Québec, là, vers ces trois ressources-là. Mais Immigrants Québec, c'est vraiment une bonne plateforme de départ pour comprendre ils font des salons d'immigration, des sommets, toutes sortes de choses.
Ah, c'est eux qui font le salon?
Oui, c'est eux qui font le salon et le sommet. Là. Salon de l'immigration, c'est plus axé vers permettre à des nouveaux arrivants de trouver des emplois, fait que c'est plus axé vers la personne immigrante. Le sommet, c'est plus comme des employeurs qui essayent de comprendre les tenants et aboutissants du régime d'immigration, fait que les partenaires gouvernementaux qui viennent, des cabinets d'avocats qui viennent expliquer comment ça fonctionne, fait que c'est le sommet est plus orienté vers une clientèle d'employeurs, de RH, de gens qui sont dans des postes où est-ce qu'ils sont susceptibles de faire des projets de mobilité internationale, fait que c'est plus comme le côté employeur. C'est ça, le salon, c'est plus, ça vise plus les nouveaux arrivants, mais Immigrants Québec, ils ont un blog. Là, je fais leur promotion, hein, mais tu sais, dans le sens qu'ils ont un blog, ils ont plein de ressources, plein d'articles, fait que ça permet vraiment d'aider. Là, tu sais, même, je pense, à chaque année, ils publient même, je pense qu'ils mettent en ligne aussi un guide de l'immigration avec plein d'affaires, puis ça touche beaucoup. Fait que je pense que ce serait là la meilleure ressource. Mais Québec International, Montréal International, c'est parce que eux, je les nommais tantôt, parce qu'eux, ils font des missions à l'étranger dans certains bassins, certains pays, fait que ça peut être une bonne façon d'aller chercher de l'information pour les gens qui sont intéressés. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début, là. Faites vos recherches, puis je sais que c'est vraiment difficile de d'identifier. Des fois, il y en a qui ça a l'air super legit, puis ah oui, on a les permis, puis on a tout ce qu'il faut, etc. Mais assurez-vous de faire vraiment, c'est super important de faire les recherches. Je parle tant aux candidats qui nous écoutent que l'essentiel des gens qui écoutent ton podcast,
c'est
des employeurs, ouais. Des personnes en ressources humaines. Puis, tu sais, moi, je le dis, là, n'allez pas vers nécessairement le plus bas soumissionnaire. Posez des questions. Parce que ça peut, il y a tout et son contraire. Là, ça part, tu sais, ils peuvent te dire, nous, on fait ça pour 2 000 $, la main, une autre firme va te dire ça pour 15 000, comme tu vas tout trouver. Allez pas vers le plus bas soumissionnaire, allez vers une firme avec laquelle vous sentez que les valeurs vous ressemblent, que la manière dont ils travaillent vous parle, que posez des questions. C'est qui? Est-ce que vous avez des rabatteurs à l'étranger ou vous avez vos propres recruteurs? Qui fait le processus, qui va les chercher à l'aéroport, ces gens-là, c'est quoi qui est compris dans les services, etc. Est-ce qu'il y a des garanties si le travailleur il quitte? Qui fait les tests à l'étranger, les tests de compétences? Est-ce que, tu sais, poser des questions, puis rapidement, je pense qu'une personne qui est dans un siège RH qui doit faire une décision entre une firme ou une autre, nous, c'est Galiléo, mais il y en a d'autres, des bonnes firmes qui font un travail exceptionnel, mais posez-vous les questions. Pourquoi, comment est-ce qu'une firme peut charger 2 000 $ pour faire quelque chose qui a autant, tu sais, tu vas à l'étranger, tu fais tous les tests, tu fais tous les papiers d'immigration, tu fais, il y a quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui ne marche pas. Comment c'est possible de, tu sais, juste, mettons, toi, tu es en RH, tu as fait beaucoup de chasse, tu sais, de
te parler beaucoup.
Non, mais tu as fait beaucoup de compagnies qui font de la chasse de tête, puis tu as aidé d'autres firmes qui font de la dotation de poste à travers ta carrière et tout ça, là, t'as entendu un peu les méthodes.
Oui.
Comment c'est, tu sais, c'est quoi le travail qui est
Ah oui, c'est clair.
Qui est requis derrière ça. Fait que tu es plus éduqué que moi dans ce milieu-là. Mais comment est-ce possible d'aller trouver un candidat qui a des compétences comme ça puis de faire tout ce processus-là pour une modique somme? Ça, là, il y a quelque chose qui frappe l'imaginaire un peu. Fait comment peut-on, pour le même prix, faire la partie chasse de tête, trouver un logement, relocaliser cette personne-là, l'accueillir à l'aéroport, aller faire son numéro d'assurance sociale, faire l'ensemble des documents d'immigration, s'assurer que tous les bons pamphlets lui sont remis pour quelques centaines de dollars. Il faut se poser une question. Ouais. Ça doit être que quelqu'un qui est payé pas cher dans un autre pays à faire des affaires. T'sais, il faut se poser des questions. Peut-être qu'ils sont très efficients, qui utilisent l'intelligence artificielle, puis qu'eux autres sont, écoute, que veux-tu, ils ont réussi à, ils ont trouvé la clé. Auquel cas, tu me les présentes, j'aimerais ça savoir comment ils travaillent. Mais c'est ça, fait que je pense que c'est ça qu'il faut garder comme message, c'est de poser les questions, puis de c'est pas juste de faire les papiers, c'est pas juste d'aller chercher le candidat, c'est tout ce qui entoure, puis de trouver une firme qui vous inspire dans la manière dont ils travaillent, puis vous dites, OK, on va peut-être payer un peu plus cher, là, mais on est confiant que ça va marcher, puis qu'on va se faire bien outiller à accueillir ces gens-là aussi.
Ouais.
Parce que l'entreprise a une responsabilité sociale aussi à travers. Si tu choisis de recruter comme entreprise, puis on revient au mot du début peut-être pour conclure, quand j'ai dit tantôt, est-ce que vous en faites du recrutement international? Non, ben faites-en pas. Peut-être qu'on revient à ça aussi, puis de se dire, si on choisit de faire un projet comme celui-là, il faut qu'on comprenne l'ensemble des choses qu'on implique, puis on a un devoir social envers les gens qu'on rentre chez nous, de leur donner la chance de s'intégrer correctement.
Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Puis au-delà aussi même du devoir social, mettons là, des gens là, qui ne penseraient pas à ça puis pour qui ça ne résonne pas, ben es-tu prêt vraiment à avoir des situations difficiles, à devoir les défendre, l'impact aussi sur la culture à l'interne, sur la perception des gens, si on ne traite pas bien des humains qui sont vulnérables.
Exact.
Il y a beaucoup de choses autour de
ça. Puis tu sais, je pense qu'on pourrait faire 8 épisodes, là, parce qu'il y a les enjeux aussi de conformité. Si les papiers ne sont pas bien faits, l'entreprise s'expose, puis dans les médias, c'est ça qu'on entend, là, des travailleurs qui avaient commencé sans les permis, puis ça, c'est tous des enjeux légaux qui auraient pu se régler en faisant un travail de planification correct. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Il faut vraiment voir le projet dans son ensemble. On a parlé beaucoup plus de l'aspect bienveillant puis de l'aspect d'intégration aujourd'hui. Je pense que c'est super un bon sujet. Mais mettons, mes collègues avocats, ben eux autres, c'est vraiment dans le côté, puis moi-même, là, je m'inclus là-dedans, la conformité, puis s'assurer de l'aspect légal. Puis c'est super important parce que ça va faire la une. Du monde sans permis, là, qui n'avait pas les bons papiers, là, ça va faire la une des journaux. Bien plus que d'avoir sélectionné un candidat plutôt qu'un autre, ou d'avoir choisi un bassin plutôt qu'un autre. Ça, c'est un enjeu de choisir une personne compétente qui est au cœur du processus. Mais si tu n'as pas les bons papiers puis que la personne est illégale dans le pays, qu'elle doit retourner dans son pays parce qu'elle n'avait pas obtenu les bons papiers, ça peut vraiment, vraiment faire mal à l'image d'une compagnie. Mm-hmm. Tu retrouves ton nom dans les journaux placardé que tu avais des travailleurs sans papiers, là, c'est pas le fun.
Oui, des travailleurs illégaux.
Illégaux, c'est ça.
On veut pas ça. Appelez Galiléo.
C'est ça, appelez-moi.
Aude Merdrian, merci encore une fois. Ça a été super sympathique, comme à chaque fois que je te parle, comme le dernier épisode de podcast. Merci de ta générosité. On va inviter les gens à te suivre sur LinkedIn, à suivre aussi Galiléo.
Oui.
On va mettre les notes des ressources dont tu as parlé dans les liens des ressources dont tu as parlé dans les notes de l'épisode. Puis ben si les gens ont des questions, les employeurs, là, puis qu'ils auraient envie de peut-être se lancer dans un processus, ben on veut les inviter aussi à vous contacter.
Ben oui, c'est ça. Puis moi, je les mettrai en contact avec mes collègues. J'espère de ne pas leur avoir fait honte. Je le dis en onde, OK? J'espère de ne pas leur avoir fait honte sur les choses, parce que je pense qu'il y aurait pu en parler dans un détail beaucoup plus grand que le mien, mais j'y vais avec ma perspective humble de la chose.
Qu'est-ce que tu veux? C'est
chose.
Toi que j'ai invité. C'est toi que je voulais.
Exactement. Tant mieux pour eux. Mais non, je blague. Mais dans le sens, on invite les gens qui me contactent, puis moi, je vais les mettre en contact avec les experts dans notre équipe, puis j'espère avoir pu toucher cette petite fibre-là, puis vous faire vous poser des questions sur ces démarches-là quand vous les envisagez ou quand vous les vivez déjà, peut-être.
Super. Ouais. Bon, ben c'est bien dit. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne fin de journée.
Toi aussi.
À bientôt.
À bientôt.
Bye-bye.